Du cœur joli. C'est quoi ça, du cœur joli? C'est le nom de mon invité.
Bob vous dit toute la vérité. 21h minuit sur BTLV.
Bonsoir, du cœur joli.
Bonsoir.
C'est magnifique, ça.
Oui, c'est un cadeau de mon papa. Effectivement.
C'est un beau cadeau du cœur joli. C'est quoi ça? C'est québécois? Bonsoir, du cœur joli.
Et non, c'est pas québécois. C'est vrai qu'on me dit souvent que c'est québécois. Pas du tout. En fait, c'est hérité des croisades.
D'accord.
Oh là. Alors bon, maintenant, je ne suis pas avec mon épée, mais je suis avec mon stylo.
Voilà, journaliste indépendant.
Voilà, et je guerroie au nom de la liberté d'information.
Voilà, exactement. Alors déjà, le nom du cœur joli, le prénom Prisca. Donc voilà, pour simplifier le truc encore, oui, on ne sait jamais, des fois que ce soit un peu trop simple. Nicole Martin, non, Prisca.
Prisca.
Voilà, c'est bien. Origine aussi, quoi?
Polonaise.
Polonaise, hein.
Prisca. Par ma maman, pour le coup.
D'accord. Voilà, alors nous allons parler de ton livre. Allez, on va se tutoyer, d'accord?
Très bien.
Qui est en accès libre, hein, je le précise. Donc, on va pouvoir vous en parler, vous allez le découvrir. Et si vous voulez le lire, on vous dira comment le télécharger. La société toxique, manuel de dépollution mentale, avec trois parties qui conviennent totalement à BTLV. D'ailleurs, tu nous as contacté parce que tu t'es dit effectivement, c'est dans les cordes et c'était pile poil. L'intox médiatique. L'intox médicamenteuse, hein, avec le tir entre les deux, et l'intox agroalimentaire. Alors là, moi je dis, c'est pour les abonnés de BTLV. D'abord, on va te présenter toi, journaliste indépendante.
Voilà. Alors j'ai quand même un parcours de journaliste conventionnel. Mm-hmm. J'ai travaillé dans la presse quotidienne régionale. Je me suis formée au journalisme par le biais d'une école.
D'accord.
Je suis rentrée dans le métier un peu la fleur au fusil, en me disant, bon, chouette, je vais informer les gens. Et puis, progressivement, j'ai commencé un petit peu à déprimer, à me dire, bah tiens, c'est marrant, je ne peux pas faire passer les infos que j'aimerais faire passer. Et mon dada, c'était l'environnement, l'agriculture bio, la santé naturelle.
Ça, alors, tu étais dans le Sud-Ouest et tu étais correspondante pour Sud-Ouest.
Voilà, j'étais au journal Sud-Ouest en tant que salarié, tout simplement. C'était un très grand journal avec d'excellents journalistes.
Ça l'est toujours, hein.
Et je peux les remercier aujourd'hui parce qu'ils m'ont formé à la technique, aux techniques de presse. Ensuite, j'ai eu des déceptions en termes de contenu d'information. Et plutôt que de me battre à l'intérieur du journal pour faire passer mes infos, à un moment donné, je me suis dit que ce n'était pas de la fuite, mais que j'avais besoin d'évoluer dans un environnement qui me correspondait plus. Et donc, à mon compte, avec une grande liberté d'action et d'information.
Avec tous les risques que ça comporte, hein, c'est totalement d'ailleurs l'esprit BTLV. Hein, voilà, la liberté, c'est un prix. Ce n'est pas toujours facile.
C'est pas toujours facile de gagner sa vie, mais on est tellement plus heureux.
Ouais, c'est vrai.
On a tellement plus d'énergie, parce que le matin, quand j'allais au journal, je me sentais pas bien, tout simplement.
Ah ouais, t'avais une sorte de mal-être et de malaise.
Ah oui, puis en plus, j'étais obligée d'écouter les informations tous les matins. Et ça, c'était un petit peu difficile quand même, parce que on nous matraque pas mal avec des informations toxiques.
Ben justement, on va en parler. Alors, donc, j'insiste, parce que dans une... t'as pas 40 ans, t'es plutôt autour de la trentaine, on va dire.
Ouais, hein. Pas loin de 40 ans, quand même.
Ouais, non, elle est autour de la trentaine, donc... T'as pris des risques personnels, je veux dire, par rapport à un emploi pour vivre ce que t'avais envie de vivre et de faire passer. Donc déjà, bon, respect, chapeau, parce que c'est pas évident dans ce monde facile. En plus, t'as passé un diplôme de naturopathe.
Oui. Alors effectivement, en pleine crise de remise en question dans le journalisme, à un moment donné, j'ai pris une petite année, j'étais encore au journal Sud-Ouest, je me suis formée à la naturopathie, j'ai fait une année complète, après je suis revenue au journal. Et puis bon, j'avais déjà trop de sujets en boîte pour continuer dans ce journal. Donc j'ai fait une démission sèche.
Voilà, clair. Oh, c'est courageux ça. Donc c'est pour ça que quand tu parles d'intox agroalimentaire, t'as d'autant plus de légitimité à le faire. D'ailleurs, quand on lui a dit, tiens Bob, il a arrêté la viande, tout ça, et tu nous as dit, faut pas qu'il arrête toute la viande, machin. Bah, déjà, la naturopathe reprenait le...
Faut voir, on est tous différents.
Ouais.
Il n'y a pas de règle unique, en fait. Vous savez, c'est pas comme les diététiciens. Vous avez envie de perdre du poids, vous allez chez le diététicien, il sort une feuille toute faite de son tiroir. Non, ça fonctionne pas comme ça en naturopathie. En naturopathie, vous êtes unique. Mmh. Vous avez une texture de peau, vous avez une corpulence, vous avez une manière de parler. On voit si vous êtes nerveux, tendu. On vous demande ce que vous aimez aussi.
Ouais, hein, c'est bien, c'est une bonne idée, oui, parce que on tolère mieux ce que l'on aime. Alors, on va commencer avec donc la société toxique, manuel de dépollution mentale, avec l'intox médiatique. Donc, tu étais au cœur du système. Il y a chapitre 1 et plusieurs sous-chapitres. Dit que les journalistes sont-ils devenus des fonctionnaires de l'info avec un point d'interrogation. Pourquoi il n'y a plus d'enquête? C'est ce que tu as constaté? Alors moi j'ai un peu la réponse, mais j'aimerais la tienne.
Mais il y a toujours des enquêtes, mais on a l'impression qu'ils sont quand même un petit peu au service d'État. qui sont plus dans la communication aujourd'hui que dans l'information. Il y a une liberté qui semble s'être perdue. Quand on assiste à des conférences de presse où on a des beaux dossiers, tout est parfaitement présenté. Et quand on écoute après ce qui en ressort dans les différents journaux télévisés, ben on s'aperçoit que c'est souvent un petit peu trait pour trait ce qui a été donné à la conférence de presse et que l'esprit critique se perd.
Ah, c'est bien analysé. C'est
vrai. Et qu'a priori, bon, fonctionnaires, c'est pas tant péjoratif, c'est pas ça. Je veux dire, ils sont en fonction de communication auprès des différents attachés de presse, des différents ministères. Mais toujours avec cette idée quand même d'informer. Ils sont pas forcément eux-mêmes très... Enfin, ils n'ont pas le sentiment de désinformer les gens. Ils sont souvent intimement persuadés que le ministère a raison, notamment en santé publique, hein, quand on nous fait des campagnes de vaccination contre la grippe,
on va en parler de ça,
contre l'hépatite B, bon, on peut les passer en revue. Généralement, là actuellement c'est le vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Bien, l'esprit critique aujourd'hui des journalistes, moi je ne le vois pas dans les masses médias, ni à la radio, ni à la télévision. En revanche, c'est sur Internet qu'on va le trouver.
La preuve, on est là pour ça. Et ça vient de quoi? Ça vient... cette absence d'esprit critique, ça vient de quoi? Ça vient du système? Ça vient d'une paupérisation intellectuelle du métier? Comment tu l'analyses, ça?
Moi, je l'analyserai aussi par une forme de pressurisation du journaliste qui est soumis à un nombre d'informations incalculables parce qu'on est rentré dans la société d'information. On est bombardé hein, aujourd'hui. Y a une concurrence permanente entre les journaux. Et du coup, alors si je sors pas ce sujet, les autres, les petits copains, ils vont le sortir. Donc moi aussi, il faut que je le sorte. Alors du coup, on sort beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets, mais on va pas les analyser au cas par cas avec beaucoup de soin, beaucoup de temps, beaucoup d'enquêtes approfondies. Il faut sortir le sujet. Voilà. C'est un peu le syndrome BFM TV, si vous voulez. Ça va très, très vite. Il faut de la quantité, mais où est passée la qualité?
Ouais. Donc je reviens au terme de paupérisation, quoi. Financière d'abord, et d'une, parce que le métier de journaliste a beaucoup perdu, comme plein de métiers en France, mais aussi intellectuel, parce qu'on est moins préparé. Et tu sais, il y a beaucoup de journalistes que Bob et moi, d'ailleurs, on a formés dans différentes écoles ou différentes radios, qu'on retrouve à la présentation de différentes chaînes. C'est des gens qui sont compétents, sûrement très bien, mais qui n'ont jamais été sur le terrain. Et je pense que quand on n'a pas été sur le terrain, qu'on n'a pas était obligé de réfléchir, de rencontrer les gens, de voir s'ils ne racontaient pas des mensonges, mais en tout cas ce qu'ils veulent bien faire passer comme information, ben, il manque quelque chose.
La subtilité de la réalité, effectivement. Ouais. Moi, je suis issu de la presse quotidienne régionale, c'est-à-dire que bon, j'ai travaillé dans des petites locales avec des sujets locaux. Bon, c'est vrai que quand je disais des bêtises, eh ben, je me faisais rattraper le matin au bistrot. Le bistrot, c'est l'endroit où on glane des infos, généralement.
Ouais.
Bon, j'avais un retour de volée immédiat. Alors, ça m'a invité, effectivement, à comprendre que la réalité est complexe, que les situations... Dans les sujets, il y a des situations humaines. Et par exemple, pour revenir au vaccin, il y a des victimes. Est-ce que les journalistes vont vraiment rencontrer les victimes? Est-ce qu'ils vont quand même essayer d'aller voir concrètement sur le terrain quels sont les effets de ces politiques? Eh bien, pas forcément. Et ils sont à l'abri dans des bureaux, un petit peu au chaud. Et est-ce qu'ils ont le courage intellectuel de descendre, d'aller voir dans la rue, de confronter ce qu'ils véhiculent, de prendre leurs responsabilités et d'aller confronter avec le terrain, avec la réalité du terrain, les informations qu'ils distillent dans les journaux? Moi, j'ai rencontré beaucoup d'inertie et aussi un peu de prétention, malheureusement, de personnes qui ont le sentiment d'avoir l'information avant les autres et qui sont peut-être un petit peu au-dessus de la masse. Voilà, peut-être une dérive en termes d'orgueil. Voilà.
Non, mais effectivement, tu as bien résumé dans le terme communication. Parfois, c'est plus de la communication. On a reproché d'ailleurs à Pujadas sur les réseaux sociaux et autres, lors de la dernière interview de Nicolas Sarkozy, c'était plus de la communication que de l'interview pure et dure. Et on lui a même reproché parfois de finir les phrases de Nicolas Sarkozy, quand il hésitait sur certains mots. C'est vrai que on rentre dans un système qui dérive petit à petit d'ailleurs, hein. Et c'est pas méchant de la part des journalistes, mais voilà, ils vont plus sur le terrain, c'est confortable, la soupe est bonne, on présente, et il y a une remise en question qui ne veut pas être faite parce que c'est général, hein. Je veux dire, ça va du journaliste au directeur à autre, hein. Voilà, le 20h, il est là, on ne touche pas au navire amiral, on ne sait pas ce qui peut se passer si on le fait vibrer.
Il y a aussi un syndrome un peu grégaire, c'est-à-dire que les petits copains disent ça, attention, moi, si dans mon journal, mon grand journal télévisé, j'avance quelque chose de complètement différent, d'ailleurs, ce n'est pas paru dans l'AFP, l'agence France Presse qui qui nourrit un peu, c'est la béquée matinale.
Ouais. La béquée matinale.
La béquée des journalistes, ils ont leur petit agenda, ils savent les sujets qui vont être traités par l'AFP, donc l'AFP donne le là. C'est difficile de sortir de l'AFP.
Bien sûr.
Parce que plusieurs fois, moi, j'ai proposé des sujets qui n'étaient pas dans l'AFP, on m'a dit que ce n'était pas dans l'actualité. Or, ça battait son plein sur la toile, mais ce n'était pas dans l'AFP. Mais l'AFP, ce n'est pas l'information, ce n'est pas forcément la réalité.
On est en retard en France sur l'information qui vient de la toile, justement.
Moi, j'ai constaté que c'était très difficile auprès de mes confrères de faire passer ce genre d'informations, en tout cas d'arriver avec des sources citoyennes en conférence de rédaction. Parce qu'elles n'ont pas...
Avec des sources citoyennes en conférence de rédaction, c'est bon ça.
Elles n'ont pas la légitimité, en fait, si vous voulez, de l'autorité. Et à un moment donné, on peut se poser la question de savoir si le journaliste, le rédacteur en chef, il fait preuve aussi d'esprit critique, un esprit critique adulte, qui est capable de discerner, enfin, de penser différemment que l'autorité. Celui de papa, maman, et bien sûr celui de l'État, finalement.
Ouais, c'est peut-être une question de confiance vis-à-vis de ces journalistes aussi.
Ces journalistes n'ont pas confiance dans les citoyens. Ils sont censés faire de l'information pour les citoyens. D'ailleurs, les journalistes tous aussi, ils ont des déductions fiscales sur leur, impôt sur le revenu. Pourquoi ? Parce qu'ils sont censés rendre un service public.
Mmh, c'est vrai qu'on a une déduction fiscale, oui, c'est vrai.
Mais, donc, si on rend un service public, c'est bien que quelque part on informe des citoyens. Les citoyens veulent être informés sur un certain nombre de sujets. Ils arrivent souvent pour proposer des sujets aux journalistes. Les journalistes leur disent, bon, c'est pas trop dans l'actu, non, je sais pas comment faire ça. Et puis bon, votre truc, là, quand même, vous êtes sûr, moi je l'ai pas entendu. On sait pas, si c'était vrai, ça se saurait, ta.
Ouais, mais c'est vrai, pour l'avoir vécu à France 2 et dans d'autres endroits, quand il y a une conférence de rédac, on t'envoie... sur un endroit qui est un petit peu chaud parce qu'il y a eu des émeutes dans les banlieues ou autres. Si tu pars et que tu dis bon, « bah non, il ne se passe rien, tout va bien, j'ai rien trouvé », tu es un mauvais journaliste. Mais c'est juste peut-être qu'il n'y a rien à trouver. Ouais, donc il faut en trouver quelque chose. Donc tu fais les interviews, tu sais, les micro-trottoirs, jusqu'à ce que quelqu'un te dise « oh oui, non, c'est un scandale ». Et donc elle est complètement biaisée cette info. Ça, pour l'avoir vécu, je peux vous dire que c'est quelque chose. Non, il n'y a rien, c'est pas grave, bah voilà, on n'a pas de sujet. À la limite, ça peut être une info. On a envoyé notre journaliste. Et,
tout à fait.
Écoutez, c'est calme, c'est bien, c'est une info. On le voit bien des fois quand il y a des départs en vacances sur certains péages. Il l'envoie, bah non, écoutez, tout va bien, les voitures circulent. Et puis après, il fait pendant 2 minutes son job en disant tout et rien parce qu'il n'y a rien à dire. Mais au moins, c'est une information que tout se passe bien. Et ben, on ne le fait pas parce que ça va être spectaculaire. Si tu ne ramènes pas quelque chose de spectaculaire,
ça
c'est embêtant. Ça, hein. C'est un peu pour faire le buzz. À quoi on reconnaît une information saine ? Tu le dis dans le bouquin, c'est pour ça que je te pose la question.
Oui.
À quoi on reconnaît ça ?
C'est Madame très intéressant, parce que c'est vrai que je parle de pensée toxique, d'information toxique, alors comment justement essayer de discerner, un travail de discernement ? Je dirais qu'une information saine, elle se rapproche beaucoup de l'intuition. L'intuition, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose déjà qu'on n'a pas entendu. D'ailleurs, une information, généralement, si on fait de l'information, c'est pour apporter de la nouveauté. Or, dans les médias, on se retrouve souvent avec une information qui est martelée, répétitive, avec toujours... Bon, d'ailleurs, ils sont tous en train de marteler la même chose au même moment. Ça devient un petit peu agaçant.
Bah, cette semaine, on a eu le procès du Carlton, tout le monde était dessus, voilà. On avait les mêmes images, les mêmes questions et autres, tout à fait.
À partir du moment où l'information est martelée par tous au même moment, moi, j'ai tendance à prendre un peu de recul et à me méfier, déjà. Je me dis, est-ce que c'est si sain ? Voilà. Ensuite... Déjà, donc, première chose, elle est nouvelle. Ensuite, comme l'intuition, parce que des fois, on a des éclairs d'intuition, des idées qui descendent comme ça, elle a tendance à élargir notre point de vue. C'est nouveau, mais ça élargit aussi le point de vue sur la réalité. Mmh. Ah, tiens ! Et c'est, quelque part, solutionnant, parce qu'on sort d'une espèce de... Bon, souvent, il y a des débats d'experts, par exemple, à la télévision, pour contre. Cette dualité dont parfois on n'arrive pas à se sortir, vous éteignez le poste de télévision après l'émission et en fait, vous n'êtes toujours pas plus avancé. Mmh. Une information saine, elle va, comme si vous
apporter un éclairage.
Voilà, un éclairage, mais qui va vous percuter comme l'intuition. C'est-à-dire, ça vous allez dire un peu au fond de vous, ah mais bien sûr, et là, ça va vous parler.
Une sorte de bon sens, mais bien sûr.
Une sorte de bon sens. Une sorte de bon sens aussi. Quelque chose qui est finalement limpide, qui paraît simple et limpide. Parce que souvent, quand on éteint la télévision, après tous les problèmes qu'il y a dans le monde, c'est vrai que c'est terrible, on ressort avec un esprit de confusion et on se dit « Oh là 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 là, on va jamais s'en sortir, c'est pas possible. » Et on est désespéré, on rentre dans la désespérance, dans l'impuissance.
C'est toxique.
C'est toxique, ça c'est toxique.
Ça reprend ton bouquin, c'est toxique. Faites l'expérience d'ailleurs chez vous, et il y a plein d'abonnés de BTLV qui ont arrêté tous les autres abonnements. vous coupez la télé, vous l'allumez pas quand vous rentrez chez vous, vous dormez mieux et puis vous avez l'esprit plus positif.
Tout à fait.
Non mais c'est vrai. Hein, c'est...
Parce que autant d'informations toxiques martelées longueur de journée va générer un stress chronique. Mm-hmm. Et on sait que le stress chronique, ça fait chuter les défenses immunitaires. Bon, ça c'est prouvé.
C'est la naturopathe qui parle.
Tout à fait. C'est la capacité justement de faire les liens qui est intéressante.
Ouais,
et qu'on a perdu aujourd'hui. Parce qu'on est tous des spécialistes d'eux. On a une médecine qui est spécialiste voilà, du genou droit, le médecin après est spécialiste de l'épaule gauche, du cerveau, du foie. On ne fait plus les liens. Dans la formation, c'est pareil. Le spécialiste de l'économie, le spécialiste de la culture, et ces gens-là ne se parlent pas.
Il y a plus d'interactivité, ouais, c'est vrai. Ouais.
Enfin, pour finir sur une information saine, je dirais qu'une information saine, elle va vous apporter des solutions. Qu'elle se soit en termes de connaissances, de curiosité culturelle, ah, vous avez une information là qui vous solutionne quelque chose. Ou des solutions pratiques, voilà, des solutions à prendre en main tout de suite. Et beaucoup de gens aujourd'hui, par exemple, ont des problèmes de santé parce qu'on est dans la malbouffe. Eh bien, une bonne information, elle va vous percuter et vous apporter immédiatement une solution que vous allez pouvoir appliquer et qui va résoudre votre problème. Alors, peut-être pas immédiatement, mais
qui va aider progressivement. Alors, par rapport à tous ces mainstreams que Bob et moi, on a bien connus, hein, on en vient et cette liberté ici sur BTLV, elle est partagée et c'est ce qu'on aime. Et c'est une liberté totale. Alors, Internet, c'est la solution, mais peut-être pas la solution idéale.
C'est la solution.
C'est la solution pour toi ? Nous, on pense aussi, évidemment.
Pour moi, c'est la solution. Ouais. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'information coule à flot. Comme ça. Alors, la bonne, la mauvaise.
Voilà, il faut sélectionner.
Certes. Mais c'est un média pour adultes. Il faut sortir justement du...
Oui, mais normalement, la télé, c'est aussi un média pour adultes. On le dit toujours, c'est pas une fenêtre ouverte. Ça doit être quelque chose qu'on doit contrôler. Or, tout le monde le prend pour une fenêtre ouverte. On le laisse tout le temps allumé. Il y a cette sorte de brouhaha qui vous... Et je le fais aussi, hein. Parfois, ça m'arrive. Des fois, l'après-midi, quand il y a des séries ou du sport qui s'enchaînent, je le laisse. Et au bout de la journée, on est un peu saoulé. Voilà, il y a une sorte de petit ronron qui s'est installé.
Pour
Donc,
moi,
la
c'est
télé,
pas...
ça aurait dû être ça à la base.
Ça peut pas être ça, la télévision, parce que la télé est unilatérale. Ça va que dans un sens. À la différence d'Internet, si vous voulez, vous avez cette capacité d'interaction. La télévision, ça va que dans un sens. Alors, non seulement on vous dit quand regarder les choses, parce que vous n'avez pas le choix de l'horaire.
Alors, de moins en moins maintenant, avec les rediffusions qu'on peut avoir sur les sites.
Voilà, on devient de plus en plus libre par rapport à
voilà,
ça.
Voilà, les jeunes surtout, après les anciens un peu moins, ouais.
Les propriétés du numérique, les propriétés d'Internet sont fondamentalement différentes de la télévision. La télévision, c'est un média unilatéral. L'information descend sur vous, et vous êtes pris ou pas de l'accepter, mais vous n'avez pas vraiment le choix de dire « Ah, mais je ne suis pas d'accord. Ah, mais vous pouvez réagir après sur Internet vous-même, si vous voulez, ou dire « Voilà, j'ai vu ci, j'ai vu ça, ça ne m'a pas plu. » Mais sur Internet, c'est vous-même qui allez chercher l'information. C'est vous qui êtes le maître du jeu, et c'est pour ça qu'il faut être adulte par rapport à toutes les informations qu'on voit sur Internet, parce qu'effectivement, il y a le bon, il y a le mauvais. Ça vous demande d'exercer votre esprit critique.
Et ça, effectivement, c'est intéressant.
On ne vous tient plus par la main.
Mmh, c'est vrai. Au moins, on a cette démarche. Il y a aussi un problème vis-à-vis des jeunes, hein, des 20-25, qui ont de moins en moins d'esprit critique. Bon, moi, j'ai deux enfants qui ont 21-23. Je trouve qu'ils n'ont pas assez d'esprit critique. C'est-à-dire qu'ils vont sur Internet, ils font du copier-coller pour les devoirs. Et quand tu leur demandes « qu'est-ce que tu penses de ça ?», ils ont beaucoup de mal à exprimer simplement déjà la situation et à poser leur opinion et leur sentiment dessus, parce que faut que ce soit un peu dans la pensée unique. Si c'est un peu décalé, oh là là, on est un peu extrémiste et c'est pas bien vu. Donc c'est un peu malheureusement aussi la conséquence d'Internet. C'est pas la solution idéale. Ils y sont beaucoup, mais l'esprit critique est peut-être pas assez.
Qu'ils aient pas d'opinion particulière sur un sujet parce qu'ils savent pas. Moi, je trouve ça plutôt sain que de ressortir ce qu'on a entendu à la télé. Est-ce que tout le monde dit à la télé ? Souvent, c'est ça. Vous allez poser une question un peu à quelqu'un qui va vous dire, voilà, pour moi, je pense si, ça, c'est comme ça, et de manière assez affirmative, et souvent, il l'a entendu à la télévision. Sur Internet, c'est plus complexe. Vous êtes un peu paumé, justement, parce que vous avez tout et son contraire. Ce qui invite quand même, moi, je pense qu'on a toujours besoin des journalistes, si vous voulez, justement, pour faire ce travail de tri, de discernement, de débroussaillage.
Oui, tout
donc
à fait.
C'est pour ça que voilà, moi je continue.
Il y a Mediapart, hein, on en parle souvent sur BTLV, Mediapart, voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Plenel et toute son équipe, ils ont sorti l'affaire Cahuzac et autres, c'est du bonheur. Eux, ils ont le temps d'enquêter et ils vont au fond des choses et ils sont libres. C'est-à-dire que s'ils sortent une enquête dérangeante sur une voiture, on va pas leur enlever la pub de la marque de la voiture. Mm-mm. Parce que ça peut être un peu gênant. Donc, ils vont déjà pas fouiller dans cette direction. Voilà, effectivement, il y a moins d'expertise dans les sujets dérangeants parce qu'ils ont moins de liberté. Voilà, donc ça, c'était la première partie. On va faire 20 minutes sur chaque. Hein, comme ça, allez. On va faire 3 fois 20, on va être fou.
On va être obligé de les croiser un peu quand même.
Ouais, mais c'est bien l'intox médiatique, là, l'intox médicamenteuse. Effectivement, j'ai lu quelques trucs là-dessus. Tu remets en cause le système Pasteur, la santé pasteurisée.
Eh oui.
Alors, vas-y, explique, parce que ça bouscule les idées reçues.
Ah oui, ça, c'est
Pasteur,
beaucoup
c'est
plus difficile
même, hein.
De critiquer. Ah bah oui, c'est le grand prêtre.
Oui, c'est l'inventeur de la médecine moderne, grosso modo, non pas tout à fait, mais bon.
Bon, médecine moderne, médecine archaïque, on jugera ça dans 50 ans. On est peut-être à la préhistoire de la médecine, finalement.
Alors
on
vas-y, pourquoi, système... Pasteur, pour toi, ça a été comme Descartes, peut-être une erreur pour certains.
Pasteur, il part d'un postulat qui est complètement faux au départ. Il dit que le corps humain est exempt, il n'y a pas de bactéries dans le corps humain, que c'est un milieu stérile. Or, on sait aujourd'hui qu'on a 10 fois plus de bactéries dans le corps humain que de cellules, déjà.
D'accord.
Au départ, tout son système fonctionne là-dessus. Donc forcément, il crée la vaccination pour lutter contre l'agresseur extérieur. Mmh. C'est le mythe aussi de l'agresseur extérieur, alors qu'on sait aujourd'hui que nous vivons en symbiose avec les virus, et que nous avons besoin d'être en contact, que si nous vivions dans un univers complètement aseptisé, nous mourrions.
On l'a vu déjà dans les conquérants, les Espagnols qui sont arrivés en Amérique, ils ont importé des maladies contre qui ils n'avaient pas de défense, et ils sont tous morts d'épidémie.
Les gens n'étaient pas prêts.
Et on dit souvent, il n'y a pas de microbes, il n'y a qu'un terrain favorable aussi. Hein. Ça fait partie, hein, pour aller c'est un peu dans ton sens.
Tout à fait. Moi, je soutiens cette thèse en tant que naturopathe que le microbe n'est rien, le terrain est tout. Pourquoi dans une école, certains vont tomber malades, ils ont tous été en contact avec le même petit virus. Finalement, il y a des gamins qui vont très bien le supporter et d'autres qui vont tomber malades. C'est comme si on régissait tous pareil, ce serait trop simple. Mais ça, Pasteur est un peu simpliste. Après, sur le fond, on peut toujours discuter. Et puis sur la forme, la manière dont ont été menés ces essais, c'est aussi très très discutable, très très discutable. Alors ça, je vous renverrai peut-être à mon livre. Puis il y a beaucoup d'écrits là-dessus sur Internet. Il suffit finalement juste de chercher, puisque toute l'information est sur Internet. Bon, Sylvie Simon, que j'aimais beaucoup, est une écrivain et journaliste autodidacte. Elle a largement exploré le sujet et je vous recommande d'ailleurs ses ouvrages parce qu'elle décrypte elle-même tout à fait Pasteur. Moi, en tant que journaliste aimant faire les liens. Pasteur, c'est un peu le grand prêtre, le pasteur, justement, et nous sommes les petites brebis.
Une belle image, oui, je n'y ai pas pensé comme ça, mais c'est vrai, ouais, ça passe bien.
Et oui, et il a un grand nombre de disciples, les médecins, qui ont leur Bible sur la table, et la Bible, c'est le Vidal. Et ils suivent à la lettre, c'est presque des fondamentalistes, si on peut aller jusque-là. Et ils vont vous dire, voilà, vous avez telle maladie, et ben c'est tel médicament. Mais moi, ça, je ne peux pas l'entendre en tant que naturopathe, puisque... Il y a peut-être une maladie, mais différentes causes.
Et différents terrains qui vont réagir différemment.
Donc Pasteur, moi, c'est une étape, mais si vous voulez, c'est toujours ce mythe de l'agresseur extérieur que finalement, c'est la faute à l'environnement, c'est la faute aux méchants virus, aux méchants microbes qui se baladent. Et moi, finalement, à quel moment je suis responsabilisé? À quel moment je le prends en charge?
Il y a une responsabilisation dans ce système un petit peu d'anti-Pasteur, d'accord?
Complètement. Puisque vous êtes, c'est vous qui cultivez votre terrain. C'est vous qui êtes responsable de votre terrain. Bon, bien sûr, si vous habitez en dessous d'une antenne relais, vous êtes bombardé en permanence, vous n'avez pas de chance. Si vous vivez si votre maison a été construite sur un champ qui était bourré de pesticides et que dans votre jardin, bon, voilà, vous faites votre potager, vous ingurgitez des pesticides, bon. Par contre, vous avez la liberté d'être conscient de ça, d'être informé de ça et de vous dire, bon, soit je vais déménager, soit je vais dépolluer, je vais trouver des parades. Voilà.
Donc pour toi, après, les vaccins, c'est pas bien.
Pour moi, les vaccins, c'est
toxique.
Une erreur
toxique, d'ailleurs.
Magistrale.
On a beaucoup de médecins qui viennent ici, qui nous disent ça.
On en reparlera dans quelques années, parce que quand ça va tomber, vraiment, ça va être très difficile à faire tomber.
Mais c'est pas possible, il y a un lobbying terrible avec les vaccins.
Un conditionnement total depuis la tendre enfance.
Mais la polio, par exemple. Allez, on va prendre. Bon, quand t'as des enfants, est-ce que tu prends le risque de ne pas les faire vacciner contre la polio, le vaccin de base, là, tu sais, qu'on te faisait, qui faisait des cicatrices sur les épaules avant. Est-ce que tu prends le risque de ne pas les vacciner contre la polio? Il n'y a plus de polio quasiment maintenant.
Il n'y a plus de polio, mais comme il n'y a plus de tétanos.
Voilà.
Quasiment plus.
Ce sont les vaccins qui sont les responsables, si je puis dire. Non, ou pas,
non,
pour toi.
Non. Les vaccins n'ont jamais éradiqué les maladies. Ce qui a éradiqué les maladies, c'est l'hygiène et l'élévation du niveau de vie. Je viens de publier un dossier sur mon site internet. Il suffit d'aller voir, il est en accès libre.
Vas-y, donne-le.
Les vaccins ont-ils éradiqué les maladies? Enquête sur 10 pages.
Mais ton site, c'est
PriskaDuCœurJoli.com.
Voilà. PriskaDuCœurJoli.com. PriskaDuCœurJoli.com.
Voilà. Okay. PriskaDuCœurJoli.com. Donc, en accès libre, les vaccins ont-ils éradiqué les maladies? C'est vrai que quand on regarde les courbes d'incidence des maladies et qu'on voit à quel moment est arrivée la vaccination, on s'aperçoit que voilà, ça avait décliné bien avant. On arrive en bout de course, le vaccin arrive en bout de course, il est en fin de courbe. Donc, ça ne peut pas prouver que le vaccin a éradiqué la maladie. La maladie avait déjà régressé avant. Et c'est valable pour les grandes épidémies comme le choléra, la rage, le tétanos. Il ne faut pas oublier qu'on a eu deux guerres mondiales qui ont affaibli la population. Il ne faut pas oublier les conditions d'hygiène dans lesquelles on vivait il y a 150 ans. Mmh. Paris était la ville il y a 150 ans aux 8000 puisards. C'est-à-dire que tout le monde jetait ses excréments dans la rue. Il y avait des puisards partout. Il y avait des abattoirs absolument partout. Et bien sûr, il y avait des épidémies. À partir du moment où on a mis en place des systèmes d'assainissement, où on a rénové les logements, les gens ont eu des ventilations dans leurs appartements, ils ont commencé à manger un peu plus sainement, l'eau n'était plus polluée, les maladies naturellement ont régressé.
Mmh, d'accord.
Alors prétendre aujourd'hui vouloir éradiquer les maladies, ce qui reste de ces maladies avec les vaccins, c'est non seulement inutile et même dangereux.
Les vaccins sont dangereux avec
les
le mercure qu'il y a dedans,
c'est ça. Ouais. Oui, ils sont dangereux. Après, on peut toujours en débattre. Moi, je soutiens cette thèse parce que j'ai beaucoup enquêté là-dessus. Je suis très vacciné, rassurez-vous. Je ne vais pas mettre en danger la population parce que je suis moi-même très vacciné. Mais pourquoi? Parce que j'ai une maman qui était dans le milieu médical et qui m'a fait toutes les vaccinations. Je suis passé.
Et pourtant, t'as pas été.
Je n'ai pas eu d'effets secondaires, mais je mangeais bio. Et j'étais une sportive dès le départ, et peut-être que j'avais un bon terrain. Et peut-être que finalement, moi, je suis passée entre les gouttes. Et heureusement qu'il n'y a pas des effets secondaires sur toute la population, sinon je n'aurais jamais pu continuer à vacciner. Ceci dit, il y a des vaccins qui ont suscité quand même des manifestations, notamment la variole. Les premières grosses campagnes de vaccination contre la variole des années 1850, je crois, de mémoire. Hein. Ça, c'est dans mon dossier que je viens de publier. Il y a eu des manifestations parce que les enfants mouraient à la chaîne.
Ah oui.
Alors après, ils ont un peu peaufiné.
On s'est un peu loupé, les gars, désolé, on va remodifier ça.
D'ailleurs, il n'y a plus de vaccination contre la variole.
Oui.
Bon, elle a été éradiquée d'un point de vue international. Ça, l'OMS l'avait annoncé. Alors, je ne me rappelle plus la date. On a déclaré cette maladie éradiquée. Mais est-ce vraiment la vaccination?
Ouais. Alors, tu sais, par rapport à ça, on en parle beaucoup sur cette antenne, Bob avec ses invités ou moi. Après, c'est le risque. Moi, je suis allé en Tanzanie il y a quelques années. Je voulais pas me faire vacciner. Alors, mon ex-femme était dans le milieu médical, donc il fallait faire vacciner les enfants. Tout. Et je les accompagne. Et le médecin me dit, monsieur, vous avez le droit ou pas de vous faire vacciner ou pas pour la fièvre jaune. Mais si vous l'attrapez, je ne pourrai rien pour vous. Avant le vaccin, moi, je peux. Et là, vous vous dites, bêtement, est-ce que je prends le risque ou pas, quoi? Parce que ça doit marcher s'il me propose ça. Et c'est vrai qu'on peut mourir. Donc le vaccin, normalement, on pense que ça va protéger, quoi. Prend le risque ou pas de pas
c'est
se faire vacciner?
C'est le fameux bénéfice-risque et ça mériterait d'être vraiment étudié à la loupe. Et Michel Georget l'a fait dans son dernier ouvrage, La porte des vaccinations à la santé publique. Et il en conclut que malheureusement, le bénéfice-risque est vraiment nul pour les vaccins et qu'en plus, le bénéfice-coût pour la Sécu est désastreux. Et qu'avec ces économies qu'on pourrait générer, on pourrait peut-être apporter autre chose à la population en termes de prévention. Bien se laver les mains, manger correctement, comment remonter sur terrain, l'importance du sport, de la gestion du stress, parce que ça aussi, les émotions, on est des machines complexes. Hein. C'est pas forcément un vaccin qui va nous protéger d'une maladie.
Nous sommes notre meilleur médecin.
On est notre meilleur médecin.
Un peu de sport et une alimentation correcte, on limite les risques d'attraper des chepis. Quand on a le terrain favorable, j'étais encore ce week-end dernier avec un ami. Il arrive, on allait faire du sport. Il était un petit peu fatigué, un petit peu enrhumé. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai un peu pris une petite grippe. Là, je me suis fait vacciner et j'ai mal réagi.
Aïe.
J'ai dit, ah bon? Mais c'est-à-dire, j'ai fait une réaction. Moi, je suis resté couché une journée. Et les gens trouvent que c'est normal. On se fait vacciner, donc on a le virus et on est malade et après on est vacciné. Je dis, mais tu l'auras peut-être. Voilà, on rentre dans la. Moi, je me fais jamais vacciner contre la grippe. En plus, il paraît que le virus a muté, Donc en fait, on s'est vacciné pour rien parce que de toute façon, on peut l'attraper.
Il y a la Fondation Cochrane qui est un ensemble de chercheurs qui a bien étudié justement ce rapport bénéfice-risque de la grippe, vaccin contre la grippe, pardon. Mmh. Voilà. C'est pas la Fondation Cochrane. Cochrane, ça c'est un mot-clé. C'est vraiment une...
Qui a étudié vraiment l'impact d'une vaccination qui est...
C'est nul.
Ouais.
C'est nul en termes d'économie pour la sécu, en termes d'économie, en termes de décès, c'est nul.
Ouais, on aurait la même chose sans vaccination, quoi.
Tout à fait.
Ouais, c'est ça, en fait.
Tout à fait, avec des dépenses en moins.
Avec des dépenses en moins, est-ce qu'on prendrait... Toujours pareil, est-ce qu'on prend le risque ou pas de le faire? Personne âgée, non, les mamies, il faut que tu te fasses vacciner, parce que si t'as la grippe, t'es malade.
Après, il y a la distorsion médiatique qui fait qu'on va plus vous parler des dangers des maladies que de faire témoigner des victimes des vaccins. Si on faisait plus témoigner les victimes des vaccins, peut-être que les gens diraient, mais attention quand même, maintenant, il y a quand même des effets secondaires sur les vaccins, faut faire attention. Mais comme on leur en parle pas, il y a une espèce de prisme déformant, comme ça, de l'information.
Puis ça n'arrive qu'aux autres. C'est bien, hein, les accidents, ça n'arrive qu'aux autres, ça n'arrivera pas à moi. Donc, dans ton bouquin, peut-on vivre sans vaccin? On vient d'en parler. Tu parles de l'homéopathie, de la biologie et du magnésium.
Oui. Je donne quelques pistes comme ça sur des remèdes miracles. Et le chlorure de magnésium est très intéressant. Ça fait vraiment remonter les défenses immunitaires.
Ouais.
Et c'est un bon vaccin naturel contre la grippe. Il faut prendre un petit peu de chlorure de magnésium. En fait.
Chlorure, on le met dans l'eau, on le dissout, c'est ça? Par contre, c'est pas très bon à boire.
Non, hein. C'est dégueulasse.
C'est dégueulasse. Ça fait, on dirait de l'eau de mer.
Oui, c'est très amer. Mais par contre, vous n'êtes pas obligé de mettre le sachet dans une bouteille d'un litre. Vous pouvez mettre le sachet dans une bouteille de 2 litres. Vous prenez tout simplement une demi-petite cuillère à café dans un verre d'eau tiède le matin. À vous de doser, parce que c'est vrai que l'amertume n'est pas très agréable. Ceci dit, il existe aussi son pendant, sans goût, qui s'appelle le chlorumagène, qui se transforme en chlorure de magnésium dans votre estomac.
D'accord.
C'est quand même plus sympa.
L'intérêt du chlorure de magnésium, c'est que le sachet, si mes souvenirs sont bons, est à 2 euros. Enfin, ça coûte 3 fois rien.
Oui.
Et ça remonte les défenses immunitaires. Une fois que vous
tout
avez vomi, disons-le, parce que c'est vraiment dégueulasse.
Non, il faut le diluer et puis ça va. On s'habitue. Bon. Après, on en redemande presque. Il y a aussi l'argent colloïdal qui est un remède miracle.
Voilà, j'allais t'en parler. Hein, l'argent colloïdal des vertus en or.
Il a été testé.
C'est la naturopathe qui parle.
Il a été testé et étudié maintes fois.
Colloïdal, c'est-à-dire?
Colloïdal, ça veut dire sous forme de particules, d'atomes.
D'accord.
Dispersées dans l'eau.
Comme l'homéopathie, quoi.
Non, là, il y a quand même des résidus d'atomes.
D'accord.
C'est-à-dire que dans l'homéopathie, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des débats sur l'homéopathie, puisqu'il n'y a plus rien dans le.
Il y a juste
granules.
La vibration.
Voilà. Ça, c'est la mémoire de l'eau.
La mémoire de l'eau.
Encore un vaste et beau sujet que j'adore. Mais...
Qui t'énerve un peu le nom?
Non.
Je viens de le voir dans tes yeux là que j'adore. Ouais, ok, on va en parler de ça. C'est ça? Non, tu crois pas ça.
Faudrait un changement de paradigme pour qu'on puisse.
Bon.
Paradigme, c'est-à-dire un changement de représentation de la science.
On fera une émission alors sur la mémoire de
l'eau. C'est plus
donc,
ça.
Colloïdal.
Colloïdal, des particules d'argent dispersées dans une solution et qui ont été obtenues par une simple électrolyse, c'est-à-dire vous faites passer du courant dans 2 bâtonnets d'argent. Et les petits ions se déplacent d'un bâtonnet à l'autre et finalement certains restent dispersés dans l'eau et c'est cette solution que vous buvez. Voilà. Vous savez, c'est
d'accord.
Pour ça qu'on dit oui, mais ce gamin, il est né avec une petite cuillère en argent dans la bouche, il est riche, tout ça. À l'époque,
les familles savaient
le pouvoir bénéfique et curateur de l'argent et on faisait sucer des cuillères en argent aux petits pour les aider à se défendre contre la grippe justement.
D'accord, ça, comme le magnésium, ça relève les défenses immunitaires, en fait.
Ça tue plus les microbes qui n'ont pas le terrain favorable pour pouvoir continuer à prospérer.
Mais tu sais, des fois, j'ai des copains médecins, ils me conseillent d'acheter une petite bouteille jaune, là, en
oligosol.
Oligosol, cuivre en argent. Voilà. C'est bien ça?
C'est pas mal.
Pas mal ça?
C'est pas mal du tout.
Et t'en mets le matin sous la langue ou
voilà.
Le soir à jeun.
Et
d'accord.
Ça c'est très bien, mais justement si vous êtes grippé pour vous remonter un petit peu. C'est un modificateur de terrain, mais c'est un composé cuivre, or, argent.
Ouais, c'est ça. Il y a un petit peu
différent, voilà.
Voilà.
Mais c'est très bien.
On a tellement besoin d'argent en ce moment.
Ah oui.
On en manque tellement d'argent. Un petit peu d'argent, je le bois, hop. J'en ai trop, je le bois. Cuivre, or, argent, d'accord.
Bon, malheureusement, l'argent colloïdal, vous ne le trouvez plus en pharmacie. Hein. Voilà.
Alors, on fait comment alors?
Eh bien, vous le commandez sur Internet.
Ah, bah oui, c'est vrai.
Est-ce qu'il y a des gentilles personnes qui vont le fabriquer pour vous? Ou alors, vous commandez une machine à le fabriquer. Alors, c'est un billet de 200 euros, mais bon, c'est pour la vie. Hein.
Ah, ouais, ça peut
Et puis, vous soignez toute la famille. Et puis, vous soignez vos proches.
Ah, une machine à fabriquer, d'accord, on peut trouver ça sur Internet.
Tout à fait.
On va terminer ce chapitre sur l'intox médicamenteuse, puis après, on parlera de l'intox agroalimentaire. Alors là, ça va être la naturopathe à se lâcher. Contre les émotions toxiques, alors ça c'est très décrié, est-ce que c'est de la pub ou pas? Est-ce que t'es vraiment journaliste indépendante quand tu parles des fleurs de Bac dans ton bouquin?
Moi j'ai pas d'intérêt.
T'es sûr? Je vais
pas d'intérêt là-dedans.
Non, sérieusement.
Non, c'est vrai.
Ça marche vraiment les fleurs de Bac?
Si vous croyez l'homéopathie, vous croyez aux fleurs de Bac. Si vous croyez pas l'homéopathie, vous croyez pas aux fleurs de Bac. C'est le même principe.
D'accord.
C'est une.
C'est suisse, ça, non? C'est fabriqué en
non,
Suisse.
Non, c'est anglais.
Anglais, les
fleurs Edward de Bac. Bach, au départ, est un médecin anglais, du médecin de chez médecin. Mm-hmm. Après, il bascule gentiment dans l'homéopathie. Et puis, il se dit, bah, l'homéopathie, moi, je. C'est intéressant de soigner le mal par le mal, mais je voudrais soigner le mal par le bien. Mm-hmm. Et il avait certainement des facultés d'intuition.
D'intuition, hein.
Et il a mis en place, en fait, un système complet de traitement des maladies par le biais du traitement des émotions, parce que ces fleurs s'adressent aux émotions. Alors, c'est pas la panacée, ça soigne pas forcément tout. Il faut pas, on peut pas dire, voilà, il y a un remède unique qui serait merveilleux, un système unique qui serait merveilleux. On a tous notre chemin vers la guérison, vers la santé. Mais les fleurs de Bac, pour moi, c'est un des plus précieux. Voilà. En tout cas, moi, je le pratique beaucoup pour moi-même, pour mes proches. Je suis très surprise des résultats et c'est par l'expérience que je peux dire que ça marche.
Ah ouais, ouais. Parce que y a un truc de fleurs de Bac qui est le rescue quand t'as un coup de stress comme
ça. Un petit coup de speed, ouais.
Ça fait un peu médicament miracle, ça.
Oui, ça fait un peu médicament miracle. Ça marchera peut-être pas d'ailleurs à tous les coups.
D'accord.
Mais ça peut être utile, voilà, pour les gens qui sont très sujets au stress, au trac.
Bon, bah tiens, on va en acheter quelques litres à Bob. On va lui faire boire, Mathieu. Parce que alors là, c'est les fleurs de Bac, mais on va lui filer le Bac. Le Bac de Bac. Le Bac de fleurs, il va le prendre directement. Bon, voilà, on a parlé des médias, médicaments.
Les médicaments, quand même,
ouais,
sur le système en général.
Ouais. Oh, bah alors, bon, ça, on en fait des tonnes aussi là-dessus.
Le mot médicament en anglais, on le dit par drug.
Ouais, bon,
moi, je maintiens la thèse que nous sommes drogués par le système actuel, qui nous met sous camisole chimique, ce sont les antidépresseurs ou même les antibiotiques, les anti-inflammatoires, les anti-hypertenseurs.
Les médicaments pour le diabète aussi, voilà. Pour le cholestérol. Non, pour le cholestérol. J'ai vu des reportages super sur le cholestérol.
C'est très intéressant.
Un scandale.
C'est un scandale aussi, un nombreux scandale. Il y a un des nombreux scandales.
Ouais.
Et en tout cas, moi je maintiens la thèse que nous sommes mis sous camisole chimique, drogués, parce que dépendant triplement du médicament qui guérit, donc d'une substance étrangère, du médecin qui soigne, notre gourou, et du système qui rembourse.
Ouais.
Voilà.
Belle trilogie, effectivement, qui nous
emprisonne. Et c'est un peu par la gratuité aussi qu'on nous a ferré. Ah bah, je peux pas faire différemment, c'est pas remboursé. Et donc finalement, on ne rembourse que les médicaments qu'on veut bien rembourser, mais ces médicaments-là sont-ils d'une réelle utilité aujourd'hui?
Ah bah ça, il y a une belle remise en question. Hein.
Est en cours.
J'ai vu un reportage d'ailleurs sur une chaîne publique, il me semble, qui parlait justement des médicaments contre le cholestérol.
Il y a statines.
Les statines, exactement. Il y a quelques années, la limite était à 3.
La limite du cholestérol
la limite
dans le sang.
Était à 3. Il y avait 1 million de Français qui prenaient des statines. Puis ils se sont dit, ah, peut-être la baisser à 2 quand même. Ils l'ont baissé à 2, c'est passé à 7 millions. Donc le marché a été multiplié par 7.
Alors 7 millions, voilà. Dans les hypertendus aussi, ils sont 10 millions, 11 millions.
Ouais.
Aujourd'hui, il y a plus d'une personne sur deux qui est sous médicament à vie.
Plus d'une personne,
plus
sur,
d'une
deux.
Personne sur deux qui est sous médicament à vie.
Voilà, ça fait
voilà. Sens, alors c'est un
et,
bon marché.
Et le médecin qui parlait justement de ces médicaments, des statines, disait qu'il n'y avait que deux catégories de personnes qui devaient les prendre, qui étaient, une fois qu'il avait donné ces deux catégories, il y avait peut-être milliers de personnes en France qui étaient dans ces catégories, déjà un petit peu malades et autres. Donc,
ensuite, après, si vous prenez des statines, vous n'avez plus rien dans les muscles, vous n'avez plus envie de marcher.
Exactement,
on sait que la marche est la meilleure prévention
anti-cardiovasculaire.
Bon, c'est un cercle vicieux qui s'installe.
Bon, on va faire une petite pause, Prisca du cœur joli, et nous allons parler de l'intox agroalimentaire.
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les phénomènes paranormaux, les secrets d'État, les ovnis, les envoûtements, la réincarnation, les complots d'État. Bob vous dit toute la vérité du lundi au vendredi, 21h minuit sur BTLV.
Et nous allons vous proposer de participer à l'émission d'Anne Tufigo. Hein, ce sera mercredi 11 février. Mercredi 25, elle viendra pour vendre ou acheter votre maison avec tous ses conseils. Marielle Laheurte, le mardi 17 février pour l'interprétation de vos rêves. Donc c'est ça. Ah, il y a aussi Annabelle de Villedieu qui est venue cette semaine, mercredi 4 février. Pour le coaching de vie. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous avez des, même aussi pour la libre antenne d'ailleurs, des histoires à nous raconter alors que vous n'êtes pas du tout angoissé ou autre, ou si vous avez une question de vie, voilà, c'est tous ces témoignages et ces partages d'expériences qui nous intéressent. Il y a un mail, c'est contact@bob-toutelavérité.fr.
Sur BTLV, Annabelle de Villedieu vous aide à mieux vivre votre vie. Et c'est tous les mois dans Bob vous dit toute la vérité.
Voilà, on vit mieux avec BTLV, contact@bob-toutelavérité.fr.
Bob vous dit toute la vérité, tous les soirs de 21h à minuit sur BTLV. Après, plus rien ne sera jamais pareil.
C'est pas notre invité qui dirait le contraire. Prisca Ducœur-Joly, donc journaliste indépendante, la société toxique manuelle de dépollution mentale. On peut le télécharger sur ton site directement?
Tout à fait. Il est en accès libre, téléchargement.
C'est pas du partage, ça, hein? C'est pas du crown de réflexion, crown, je sais pas comment on dit, crown de brain.
C'est du don.
Crown brain, c'est du don, voilà. La tox agroalimentaire, allons-y, à la naturopathe que tu es en plus, nous a des... bah, tout se lie, hein, tout se tient de toute façon, un journaliste, agroalimentaire.
Tout est lié.
Tout est lié, j'aime bien. Info et un tox sur les pesticides, c'est vraiment le mal du siècle ça, les pesticides. On en parle aussi souvent sur BTLV, on a vraiment l'impression que c'est terrible, il y en a partout et on est agressé en permanence.
C'est, je dirais, le système industriel de l'alimentation, voilà, de l'agriculture qui est à revoir. Les pesticides, bon voilà, c'est des substances qu'on va ingurgiter et qui vont se comporter dans notre organisme un peu comme des intrus ou qui vont mimer certaines de nos hormones. Si possible, enfin, la plupart du temps, elles se comportent comme des hormones féminines.
Ah bon ?
Oui. Donc, c'est ça pour ça que bah, les garçons, ils ont de moins en moins de spermatozoïdes vaillants.
Oui. C'est effectivement,
on a
ça
vu
se dit,
ce beau ouais. film de ce qui était paru sur Arte qui s'appelle Mal en péril. D'ailleurs, j'avais proposé ce sujet-là 6 mois avant qu'il sorte à ma rédaction. Je n'avais pas voulu parce que ça parlait des phtalates. Les phtalates, c'est aussi des composés plastiques, des dérivés de l'industrie pétrochimique qu'on retrouve dans notre alimentation un peu partout, mais pas que dans l'alimentation, aussi dans les cosmétiques. Voilà, la virilité, la fécondité masculine est en danger aujourd'hui.
Ouais,
les poissons se féminisent. Ouais. Un chiffre sur les pesticides, ils sont en constante augmentation, mais en tout cas celui qui me reste en 2007-2008, quand j'avais fait un sujet là-dessus à l'occasion du Grenelle de l'environnement, c'est chaque année le poids du Titanic qui est déversé dans nos champs. Une tonne, 70 000 tonnes.
En France?
En France, juste en France.
Le poids du Titanic en pesticides. Il y a aussi des intervenants qu'on a eu sur BTLV, ils disaient, moi j'ai décidé de passer à une autre agriculture quand j'ai commencé à être obligé de mettre un masque à chaque fois que j'entrais dans mes champs pour mettre des engrais ou des pesticides. Là, il y a un truc qui va pas, là. On est dans la nature, je mets un masque pour me protéger de quelque chose. Voilà, juste le bon sens. Le bon sens. Il s'est dit, là, il y a un truc qui va pas, là. Donc,
le bon sens au-delà du discours d'expert. Parce que les experts, ils sont doués aussi pour vous tordre un peu l'esprit. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle monsieur Nicolas Farachi. Pardon si j'écorche son nom. En tout cas, son nom de famille, c'est Farachi.
Okay.
Il a écrit un bouquin qui s'appelle Les poules préfèrent les cages. Et ça, c'est vachement intéressant parce qu'il vous démontre tout le comment finalement on est arrivé à faire croire à certains représentants de l'État chargés de prendre la décision que finalement c'était mieux qu'elles soient en cage, quoi. Parce qu'elles préfèrent les cages et puis si on les met toutes seules dans la nature, elles se battent.
Ah ouais, c'est un peu pareil. J'adore avec, cette métaphore.
Comment les experts finalement, à l'aide de la raison et purement la raison, vont arriver à vous faire dire n'importe quoi, à vous faire croire n'importe quoi. Aujourd'hui, le débat d'experts, on le voit partout à la télévision, c'est attention à ça, parce que la raison seule, science sans conscience, n'est que ruine de l'âme. Et bon, les émotions, c'est pas bon non plus, là on joue aussi sur la peur, ça c'est encore le système médiatique.
Oui, puis souvent, ce qu'on entend, on a eu beaucoup de représentants de l'association Cocopelli, ils font croire aux paysans que s'ils n'utilisent pas leurs pesticides, les rendements seront moins bons, donc ils vont moins gagner d'argent. Donc il faut acheter les pesticides, mais ça coûte cher.
Voilà,
donc justement, pour les acheter, il faut gagner de l'argent.
Tout
il y a
à
tout
fait.
Un système qui est instauré.
Mais on sait aujourd'hui que l'agriculture bio est rentable.
Mais dans les mêmes rendements,
tout
en plus.
Tout à fait.
Donc, et sans avoir besoin d'acheter les pesticides, avec le problème des graines qu'on n'a pas
tout
le droit de planter,
fait.
Les graines stériles qu'on est obligé d'utiliser. Enfin, y a
les semences, ça c'est un gros et beau sujet. Très beau sujet.
Qu'on traite souvent... Et c'est un sujet qui me fait peur. Les semences stériles, si on les laisse faire dans 30 ans, on sera contrôlé par quelques entreprises qui nous vendront les graines.
Mais c'est pour résoudre la faim dans le monde.
Ah, mais oui, c'est vrai, Prisca, j'y avais pas pensé.
Mais oui, mais vous savez, l'enfer est pavé de bonnes intentions.
Ouais.
Et c'est souvent, on va convaincre les gens à l'aide de bonnes intentions, de beaux discours, parce que si on vous dit directement, oh, non, c'est pour faire du fric, les gens vont pas adhérer à ça. Bon, ils commencent à comprendre avec les OGM. Mais il y a un discours très séducteur. Sur le discours d'experts qui essayent de convaincre les gens à l'aide de beaux discours et de belles intentions. Mais attention à ça aussi.
La chasse au gratuit, ça c'est...
Alors la malbouffe, c'est vrai qu'aujourd'hui on est confronté à un gros problème d'obésité, ça ne fait qu'augmenter, on suit la route des États-Unis. On y va droit devant, avec toutes les pathologies que ça qui en découle. Diabète, hypertension, problème cardiaque.
Pourquoi la chasse au gras
alors,
tue, c'est
après,
bien,
on vous dit, attendez, il ne faut pas manger trop gras, tout ce qui est trop salé, d'accord, mais de quel gras on parle?
Ah, il y a le bon et le mauvais, le célèbre.
Parce que
l'huile d'olive, c'est bien, c'est 100% gras.
Le fameux
bien.
Régime crétois, qui où il n'y a pas d'obèse, il n'y avait pas d'obèse en Crète, c'est beaucoup d'huile d'olive. Dans le Périgord, d'où je viens, il n'y avait pas d'obésité non plus, parce que c'est la graisse de canard et c'est un acide gras qui est de même nature que l'huile d'olive. Par contre, dès que vous abusez des acides gras saturés, les graisses saturées, et en plus quand elles sont trafiquées pour en faire des graisses hydrogénées.
Donc dans l'industrie alimentaire, ça c'est...
Là, vous vous retrouvez, en fait, si vous voulez, les graisses saturées, les graisses hydrogénées se comportent comme des bâtonnets rigides. On sait que ces acides gras, on en a besoin dans les cellules, dans les membranes cellulaires, qui participent donc à l'élasticité de nos parois artérielles. À partir du moment où vos cellules ne trouvent que des bâtonnets rigides, elles se durcissent, vos parois artérielles se durcissent et ça donne les infarctus. Parce que quand vous avez un caillou qui se bloque dans une paroi qui est dure, qui ne peut pas avoir la souplesse de s'écarter, bah vous faites un accident.
Qu'elle a perdu sa souplesse.
Exactement. D'accord. Tandis que les acides gras monoinsaturés comme l'huile d'olive et polyinsaturés comme les oméga 3 et les oméga 6 sont des acides gras souples. Ils se comportent comme des... C'est plus des bâtonnets d'ailleurs, c'est presque comme des petites ondes. D'accord. Oscillent et qui sont capables d'épouser de donner une grande souplesse aux parois, aux membranes cellulaires, de favoriser les échanges intra et extracellulaires et donc le bon fonctionnement de l'organisme. Et donc en fait, le but n'est pas de supprimer toutes les graisses saturées, c'est d'avoir ce qu'on appelle un bon équilibre dans les acides gras.
C'est de manger un peu plus de foie gras de canard, je veux dire. Il faut relever les
Mais une pomme de terre cuite à la graisse de canard sera meilleur qu'une pomme de terre cuite avec une graisse dans la graisse d'une viande de bœuf, par exemple, vous voyez.
Il faudra un peu plus cuisiner soi-même, reprendre le temps de cuisiner un petit peu soi-même aussi, tout
c'est
simplement.
C'est la base aussi, voilà.
Et vous savez ce qu'on fait, nous, à la radio, avec Mathieu, avec Bob, tout ça, c'est qu'on amène maintenant notre lunchbox.
Hein, exactement.
De plus en plus, Mathieu. On en a tellement un peu marre d'aller dans les restos. Bon, c'est sympa, mais d'abord, au-delà du prix, hein. Mais bon, c'est un peu toujours les mêmes trucs. Bah voilà, on se fait notre cuisine et on est très contents.
C'est super bon en plus.
À partir du moment où vous cuisinez vous-même, vous êtes quasiment à l'abri. Même si vous achetez des produits qui ont des pesticides. Hein, bon. Ouais. C'est difficile aujourd'hui de faire 100% bio, écolo, voilà, il y a le budget, tout ça.
Ouais, y a le budget,
mais si vous cuisinez vous-même, déjà, vous êtes bien, quoi.
Déjà, on limite.
On limite,
on fait ce qu'on peut, en plus du prix. Alors, de l'indigestion chronique aux maladies de civilisation. Alors, c'est listé, le mal du sucre, du lait, du blé, du sel. On les met tous dans le même... Bon, pas de sucre, effectivement, on peut imaginer que trop de sucre, c'est pas bon. Le lait, effectivement, c'est souvent remis en question. Le sel, trop de sel, on peut comprendre.
Mais le sel, il est caché aussi dans les plats
tout cuisinés. Il est caché aussi dans les plats tout cuisinés, d'où l'intérêt, encore une fois, de cuisiner soi-même. Pourquoi le blé?
Bon, vous savez, on parle beaucoup du gluten.
Gluten, oui, c'est ça.
Il y a deux choses. La première cause, en fait, ce serait déjà qu'on a les intestins complètement bousillés parce qu'on les irrite en permanence avec de la malbouffe. Mmh. Et donc, on a ce qu'on appelle une hyperperméabilité de la paroi. Et on laisse passer des molécules qui ne sont pas bien dégradées, qui se retrouvent dans le sang, qui montent direct au cerveau et qui génèrent tout un tas de troubles.
D'accord.
Ça, c'est quand le gluten passe, parce que vous avez des intestins qui sont en mauvais état. Et deuxièmement, vous avez la faute au blé lui-même, le blé qu'on connaît aujourd'hui, qui n'est pas le blé d'antan, qui est trafiqué génétiquement et qui se comporte pas pareil qu'un blé ancestral comme le camut ou comme l'épeautre, par exemple.
Et puis la farine blanche, il n'y a rien de pire, quoi. Elle est hyper traitée.
Ensuite,
machin,
vous avez la farine blanche.
C'est la farine de blé blanche.
Non, elle n'est pas forcément super traitée. Elle contient quelques antioxydants. Ils vous rajoutent 2-3 trucs dedans pour pas qu'elle s'oxyde. Mais déjà, elle n'a plus de nutriments. Elle n'a plus de magnésium. Elle n'a plus de minéraux. Vous voyez, par exemple, dans tout ce qu'on trouve dans le blé complet.
Ouais.
C'est ça surtout. C'est qu'elle est pauvre.
Pourquoi
c'est de la calorie vide.
Mais Prisca, pourquoi on en est arrivé à la traiter, à la rendre blanche? C'est plus compliqué de traiter un truc plutôt que de la prendre naturelle. On prend le blé, on l'écrase, on en fait du pain. Pourquoi on en est arrivé à le traiter comme ça?
C'est une bonne question, je ne sais pas.
Pourquoi on est arrivé à complexifier la chose?
Parce qu'en plus, derrière, en boulangerie, ils vous rajoutent le son ensuite. Quand vous achetez un pain complet en boulangerie,
oui.
Le boulanger, enfin boulangerie de base, pas l'artisan, boulanger qui connaît bien son métier, parce qu'il va vous prendre de la vraie farine complète. Mais dans les pains complets que vous trouvez, généralement, c'est farine blanche plus le paquet de son, c'est-à-dire l'enveloppe du blé qui est rajoutée après. C'est comme dans les paquets de céréales pour les enfants. Vous avez, par exemple, le blé soufflé, et en plus enrichi en vitamines, en magnésium par ailleurs. Alors que ce serait si simple, finalement, de faire directement le blé soufflé comme classique, quoi. Non, là, on aborde, si vous voulez, le concept de densité nutritionnelle. C'est un peu comme dans l'info.
Densité nutritionnelle.
Vous avez, par exemple, on a abordé dans l'information médiatique le fait qu'on était en info-obésité.
Trop d'infos, tu l'info.
Et de mauvaise qualité, surtout.
Mm-hmm.
C'est-à-dire qu'on a.
Ouais, d'accord.
Voilà,
ouais,
on zappe sur de l'information de mauvaise qualité. On est submergé par l'information de mauvaise qualité. Le poste de télévision avec les chaînes câblées, etc., c'est un peu le supermarché de l'info, si vous voulez. Après, vous allez au supermarché, vous allez dans votre grande surface, vous avez le supermarché de la malbouffe. C'est pareil. On est gavé, en fait. On n'a jamais eu autant de biens de alimentaires variés, mais pauvres, excessivement pauvres. Alors, vous en avez beaucoup, donc ça crée l'illusion de la variété, puisqu'on vous dit, on n'a jamais aussi bien mangé, puisqu'on mange varié. Mais dans cette variété, elle est d'une pauvreté sans nom.
Au niveau
nutritionnel.
Nutritionnel, ouais.
Le concept de densité nutritionnelle, c'est par exemple, vous prenez 100 grammes de blé, de farine blanche, et vous regardez combien il y a de magnésium. Vous prenez 100 grammes de farine complète, vous regardez combien il y a de magnésium, et vous voyez bien qu'il y a une densité nutritionnelle supérieure dans le blé complet.
Mmh.
Voilà.
Tout simplement.
Tout simplement. Donc en fait, alors après, on va vous faire des régimes. On dit, ah, vous êtes gros, etc. Il faut pas manger de gras. Alors, le diététicien, voilà, qui ressort sa feuille de son tiroir pour vous dire, alors, il faut arrêter le gras. Et monsieur Ducamp, hein, qui lui est le spécialiste du régime.
Il y en a qui changent une lettre dans son
voilà, nom. Voilà, oh, c'est pas gentil. Ben, lui, il vous fait manger de l'huile de paraffine, carrément, parce qu'elle est non assimilable. Comme ça, au moins, c'est clair. En gros, vous mangez de la pétrochimie, quoi. Vous faites une vinaigrette avec de l'huile de paraffine. Moi, je trouve ça complètement hallucinant. Vaut mieux enseigner aux gens à prendre une huile de colza biologique pour qu'ils aient des oméga 3, par exemple.
Ouais, ouais.
Voilà. Voilà mais l'aberration du système dans lequel on est.
Tu sais, moi, j'ai présenté, co-présenté avec Sophie Davant pendant très longtemps cet au programme le matin sur France 2. Et on avait souvent des nutritionnistes, des gens qui venaient parler pendant une heure. Dans le secret de la salle de démaquillage, ils disaient, tu sais, le mieux, quand même, c'est d'abord de ne pas grossir, de faire attention à ce qu'on mange, de faire un peu de sport, et puis ça suffit. Mais surtout, il me dit, faut pas grossir. Une fois que tu as grossi, que le corps a mémorisé ça, c'est très très dur après, et tu fais le yo-yo. Donc tout ce qu'il venait de dire pendant 20 minutes, finalement, c'était complètement éteint par cette simple réflexion. Mais s'il le disait, c'est...
Ah, il faut pas grossir, mais quand à 3 ans, 4 ans, vous avez grossi parce que vous avez été mal nourri, vous faites comment après? Mais moi, je pense que c'est récupérable. Et puis, il y a aussi la dimension émotionnelle aussi. Faut prendre en compte ça, le diététicien.
Mais souvent,
pas
quand
toujours.
On tombe amoureux, on maigrit automatiquement sans faire. Souvent, les femmes le disent. Elle est tombée amoureuse et puis
c'est équilibré. Elle est nourrie à notre niveau. Mais vous savez, les femmes aussi ont droit aussi à leur courbe.
Ouais,
elles
exactement.
Ont droit à leur forme. Attends, et on est dans le diktat du 36-38.
C'est toi qui dis ça, t'es belle comme un cœur et mince et tout.
Ça, c'est gentil. Mais bon, j'ai été élevée au grain bio. Moi.
Ouais, c'est ça. Maman était nutritionniste aussi. Elle t'a fait manger du bio tout de suite.
Elle avait ce fameux bon sens paysan dont on parlait
mais justement, dans ton bouquin, à mes deux grands-mères qui m'ont transmis chacune à leur manière leur bon sens paysan, et à ma mère qui m'a donné goût à l'alimentation bio dès les premiers jours de ma conception. T'es tombé dans la marmite dès le départ.
Toi. Ouais, in utero, je mangeais bio. Enfin, ça, c'est génial.
Ça, c'est vrai, c'est pas mal ça.
Il y a un bagage des grands-mères, là, du côté des femmes.
Ouais, les grands-mères, là, hein.
Je les ai perdues, toutes les deux. Mais alors, il y en a une, c'était une paysanne, donc la polonaise, qui est venue en France et travaillait dans les champs. Qui a transmis à ma mère naturellement, quand ma grand-mère a vu arriver les pesticides, elle a dit à sa fille, donc ma mère, je sens pas ce truc-là.
Ça sent pas bon. Ouais.
C'est bizarre ce truc. Bon, réaction, bon sens paysan. Quant à mon autre grand-mère, niveau beaucoup plus éduqué, fille d'enseignant, bon, elle était sans doute à l'avant-garde, elle est rentrée dans le courant nature et progrès, elle a fait partie des pionniers avec ce cher Philippe Desbrosses,
bien sûr.
À qui je rends hommage ici, parce qu'il fait un travail exceptionnel, notamment pour les semences.
Oui, bien sûr qu'on a eu aussi
Intelligence
invité,
verte, la ferme de Sainte-Marthe, qui est quelqu'un de remarquable et qui est un ami et qui a préfacé mon ouvrage, d'ailleurs, aussi.
Grâce à cette relation.
Et donc, ma grand-mère avait ce truc, donc si vous voulez, avec ces deux bagages-là, et plus mon père qui
qu'est-ce qu'il fait, papa?
Ah, mon papa, il est plus de ce monde.
Ah bon, et qu'est-ce qu'il faisait? Il t'a aussi amené...
Mon père, il était dans le commerce, tout simplement. Il n'avait pas tellement cette conscience écologique, mais bon, il a
commerce
quand même
posé
de... Non, à l'époque...
On n'était pas équitable à l'époque.
Pas du tout. Non, il n'y avait pas cette conscience. Mais vous savez, les hommes, il faut un peu plus de temps.
Ouais, c'est vrai. Et on va terminer avec une citation d'Einstein. Parce que là, Einstein, c'est la classe. Quand on cite Einstein à la fin d'une émission, on se dit... Alors là, c'était du top niveau.
Merci Wikipédia.
Ouais. Non, c'est dans ton bouquin.
C'est moi qui suis allé chercher.
tu vois, il y a du bon sur Internet. Le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire.
Les mots, la mollesse, à un moment donné, bon, pas en train de dire, il faut choisir son camp. Mais il faut avoir un peu le courage de dire non. Ça, c'est pas... C'est...
Garder la maîtrise de sa trajectoire, au moins dans ce qu'on peut mettre en place, dans l'action qu'on peut... Après, il y a les impondérables de la vie, il y a les accidents, les choses comme ça, mais tout ce qu'on peut maîtriser, on doit le maîtriser.
On doit en être conscient, déjà. Je crois que le pire fléau, bon, pour aller dans la... Laisser faire, pourquoi ? Parce que on refuse d'examiner la question et de se dire, attends, bon, là, il se passe des choses, moi, je vais essayer de penser, de voir si qu'est-ce que je pense, au fond. Me positionner, parce que Maline, je me positionne contre, j'ai au moins le courage de mes opinions, je me positionne pour, j'ai au moins le courage de mes opinions, mais je suis au milieu, je sais pas, je pense pas, je sais pas, je suis mou. Ça, c'est...
C'est l'égoïsme, on s'en fout, il fait son truc.
Il y a un peu de paresse intellectuelle, mais à la décharge aussi des gens qui sont les mous. Je m'excuse auprès d'eux, mais en fait, j'ai envie de leur dire, c'est pas de votre faute, quoi.
À mon avis, s'ils sont abonnés BTLV, donc ils nous écoutent actuellement, ouais. Ils sont pas dans cette catégorie,
c'est
et
clair.
Ça nous fait plaisir.
Mais bon, alors, nos amis, les
autres,
n'osent pas,
ce goût de véco convaincre.
Pas, eh bien, sortez de la... Ils sont sous la triple intox. Ils sont conditionnés.
Et ton prochain bouquin, ce sera Citoyen du Net. T'es en train de
alors, Citoyen du Net, c'est pas moi qui l'ai écrit. J'ai aidé Théo Mondolfi à le reprendre, à le réécrire un peu. C'est un ouvrage collaboratif qui parle d'Internet et du pouvoir des citoyens sur Internet.
Alors ?
C'est le seul endroit démocratique aujourd'hui, je crois.
Bah, regarde BTLV, c'est...
C'est grâce à Internet que vous êtes là.
Ouais, ouais, juste grâce aussi à l'énergie de Bob, hein, faut lui rendre hommage.
Bon, grâce à des hommes, voilà,
grâce à des hommes.
Qui se servent d'un outil de ouais. manière citoyenne et pas pour en faire un nouvel objet de consommation, pas pour abrutir les gens encore à nouveau.
Mais c'est toujours pareil, hein, nos patrons, ce sont nos abonnés, hein, voilà, sans eux, on n'est pas là, c'est pas des publicitaires qui doivent... Il y a une sorte de transparence. Dans le net, dans tout ce qu'on peut lire dans les entreprises qui existent encore sur le net et qui perdurent, il faut d'une part une transparence totale, parce que voilà, il faut une confiance qui s'installe, parce qu'on est loin, donc c'est comme une banque, si on n'a pas de guichet, faut avoir confiance, bah, là c'est pareil. Et il faut surtout une relation affective avec
il y a ça
avec
dans
cette
Internet.
Entreprise. Ouais, il y a ça finalement. C'est pas aussi froid que ça.
Et voilà, et c'est pas aussi. Enfin voilà, on est sur un modèle qui est humain, ouais. Derrière la machine, mais parce qu'il y a des humains qui se prennent en main et qui développent de nouveaux modèles économiques. Et là, vous êtes sur un nouveau modèle économique, c'est les citoyens qui vous financent et c'est plus certaines autorités qui vont vous donner la possibilité d'exister ou pas.
Exactement, c'est plus c'est une nouveau. Soi-disant élite qui le ferait.
Ouais. Et mon journalisme aussi aujourd'hui, c'est les citoyens qui sont amenés à le. Financé aussi dans ce même modèle, finalement, de ce qu'on appelle le crowdfunding.
Vas-y, dis-le.
Pour garantir mon indépendance, je fais tout simplement appel aussi aux dons.
Alors, pour bien ton sûr, bouquin, quand on le télécharge.
Pour mon bouquin, les gens peuvent donner s'ils veulent, mais d'une manière générale, pour soutenir mes enquêtes indépendantes, ils peuvent aller sur le site Tipeee, qui est par exemple un peu comme My Major Company. Finalement, mm-hmm. Ce sont les citoyens qui donnent un pourboire.
Ah, c'est génial, ça.
Ils donnent un pourboire, ils s'engagent tout simplement à vous soutenir peut-être à 1 euro à chaque publication. Dans la limite peut-être d'une publication par mois, mais il s'engage sur la durée.
C'est Tipeee, du... je ne connaissais pas ça.
C'est du type, c'est du pourboire en ligne.
C'est type un peu mieux. T-I-P.
T-I-P-E-E-E, Tipeee.
D'accord.
.com. Donc, et j'ai ma page dessus. Alors, j'ai 24 soutiens qui me permettent, à chaque fois que je publie un article, bah, de toucher 100 euros.
Génial. Prisca du cœur joli. Ça, je ne connaissais pas du tout cette initiative. Alors là, nous, on l'a fait effectivement pour avoir un studio de télé. Moi, j'ai mon fils qui l'a fait pour un projet qu'ils ont dans son école de commerce. Mais alors, le faire pour le journalisme, ça, c'est encore le top du top.
Alors, il n'y a pas que du journalisme sur ce site. Il y a aussi beaucoup de bêtises qui ont des fans. Mais bon, contact. Si les citoyens aiment, faisons confiance aux citoyens.
Exactement. Il faut sélectionner. Voilà, il faut simplement réfléchir, choisir, être conscient de ce qu'on fait. Merci, Prisca du cœur joli.
Merci à
bientôt,
vous de votre invitation.
Au revoir.
Au revoir.
Bob vous dit toute la vérité. 21h minuit sur BTLV.